VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, dans quelques minutes, nous écouterons le magazine de l'économie préparé et présenté par Camille Grosdidier. Mais juste avant, un rappel de quelques grands points de l'actualité. Les Burundais toujours dans l'attente du nouveau calendrier électoral. Sur le plan des droits humains, la situation est toujours très sensible. Les violations croissantes des Imbonerakure pourraient faire basculer le Burundi. C'est l'avertissement lancé ce mardi par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Nicolas Pinault.
Oui, le prince jordanien Zeid Raad al-Hussein a fait part de sa préoccupation face aux actions de plus en plus violentes et menaçantes de la milice pro-gouvernementale au Burundi. Ce sont ses mots. Chaque jour, nous recevons 40 à 50 appels de tout le pays lancés par des gens terrifiés à la recherche d'une protection ou souhaitant rapporter des abus, a indiqué le haut-commissaire. Le diplomate exhorte les autorités de Bujumbura à prendre des mesures concrètes et immédiates pour mettre au pas les Imbonerakure. Zeid Raad al-Hussein a en partie fondé ses remarques sur le témoignage détaillé de 47 réfugiés burundais interviewés ces dernières semaines par du personnel onusien des droits de l'homme dans des camps de réfugiés situés au Rwanda et en République démocratique du Congo. Il a aussi demandé aux dirigeants de l'opposition de freiner les éléments violents qui pourraient se former de leur côté. C'est dans ce contexte que les Burundais attendent toujours la publication du nouveau calendrier électoral. Comme le révélait dès la semaine dernière VOA Afrique, la CENI a proposé la tenue de la présidentielle le 15 juillet prochain.
15 personnes ont été tuées dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram contre un village reculé du nord-est du Nigeria, où plusieurs maisons ont été totalement incendiées, ont déclaré aujourd'hui plusieurs habitants à l'AFP. La lutte contre Boko Haram fait justement l'objet d'une réunion à Abuja, réunion des chefs d'état-major du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin, avant le sommet des chefs d'état des mêmes pays. Ici à Kaba.
Les pays alliés contre les salafistes qui sévissent dans la région du lac Tchad visent à restructurer leur force afin de la rendre plus homogène. La force multinationale soutenue par l'Union africaine devrait avoir son quartier général à N'Djamena en novembre sous commandement nigérien. Depuis le début de leur coopération militaire, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont enregistré des succès contre les salafistes armés au niveau de leurs frontières communes, des succès qui se sont multipliés ces derniers temps. Le nouveau président nigérien, Muhammadu Buhari, s'est engagé à vaincre l'insurrection de Boko Haram qui a fait des milliers de victimes dans le nord-est de son pays. Dans le cadre de cette lutte, M. Buhari a ordonné le transfert du centre de commandement de l'armée nigériane d'Abuja à Maïdougouri et il s'est rendu en visite au Niger et au Tchad. Il a également pris part au sommet du G7 tenu en Allemagne pour solliciter un plus grand soutien de la communauté internationale contre Boko Haram, surtout en matière de renseignement et de formation.
En République démocratique du Congo, des personnalités de l'opposition et de la majorité continuent de faire le va-et-vient au Palais de la Nation dans le cadre des consultations initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le point de cette deuxième semaine des consultations avec Eric Mbago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les consultations initiées par le chef de l'État ont pris une autre allure cette semaine. Reçues lundi par le président Joseph Kabila, Léon Kengoua Dondo, président du Sénat, autorité morale de la plateforme politique opposition républicaine, a souligné qu'il s'est rendu auprès de Joseph Kabila parce qu'il soutient le dialogue. Il évolue ainsi à contre-courant de sa plateforme politique qui, il y a une dizaine de jours, avait rejeté ces discussions. Joseph Kabila a reçu également la société civile de la RDC. La coordinatrice de cette organisation s'est même proposé le rôle de facilitateur. Les consultations initiées par le chef de l'État il y a un peu plus d'une semaine, sont toujours boudés par une frange de l'opposition congolaise, en tête l'UDPS, l'UNC et le MLC. Ce mardi, font le tour au Palais de la Nation, Aubin Minako, secrétaire général de l'AMP, et Thomas Luaka, président du MLC libéral. Les consultations vont se poursuivre. Joseph Kabila devrait recevoir les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. De Kinshasa, Eric Mbago de Top Congo pour VOA Afrique.
Une magistrate de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, a émis ce mardi un avis défavorable à la demande d'extradition de Joseph Habyarimana, un Français de 57 ans, vers son pays de naissance, le Rwanda, qu'il accuse d'avoir participé au génocide de 1994. C'est ce que rapporte l'AFP qui précise que le tribunal rendra sa décision le 15 septembre. L'avocate générale, Mme Florence Galtier, a fait valoir le non-respect des principes de légalité des peines et de non-rétroactivité des lois si Joseph Habyarimana était jugé dans son pays d'origine. Le Rwanda souhaite en effet le juger pour complicité de génocide et de crime contre l'humanité, alors qu'il n'existait pas de peine incriminant le crime de génocide dans ce pays en 1994. Le président du Bénin, Thomas Boni Yayi, réitère sa promesse de ne pas briguer un troisième mandat en 2016. « Mon nom ne figurera plus jamais sur aucun bulletin de vote », a déclaré le président béninois à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue français François Hollande. Au cours de cette rencontre, les deux présidents ont notamment évoqué les questions de sécurité régionale. M. Boni Yayi a par ailleurs confirmé que le président François Hollande se rendra le mois prochain au Bénin. Au Cameroun, la Cour suprême confirme la condamnation à 25 ans de prison de l'avocate française d'origine camerounaise, Lydia Nyen Eyoum. C'est ce que rapporte l'AFP. Elle avait été condamnée en 2014 pour détournement de fonds. Madagascar, Lanto Rakotomanga, député hostile au président, a été interpellé la nuit passée. D'après les journalistes locaux interrogés par l'AFP, une importante somme d'argent a été retrouvée dans son véhicule perquisitionné. La députée n'a cependant pas été arrêtée. Cet incident survient en pleine confrontation politique entre le président Herry Rajaonarimampian et le Parlement qui a voté sa destitution il y a 15 jours. La Haute Cour constitutionnelle doit encore se prononcer et pourrait invalider le vote. Son avis pourrait tomber dès aujourd'hui.
VOA Afrique en direct de Washington.
Crise au Yémen, le parti de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, allié aux rebelles chiites Houthis, a favorablement accueilli les prochains pourparlers de paix de Genève. Le Congrès populaire général précise toutefois que ses membres n'y ont pas encore été invités. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé samedi que des pourparlers de paix pour le Yémen allaient se dérouler à partir du 14 juin à Genève, en Suisse. Il a réitéré son appel urgent à toutes les parties à engager des consultations de bonne foi et sans conditions préalables dans l'intérêt du peuple yéménite. A rappelé que le conflit au Yémen a déjà fait plus de 2000 morts. En Libye, les djihadistes du groupe État islamique affirment avoir désormais le contrôle total de la ville de Sirte. Claire Morin-Gibourg.
C'est par le biais d'un message diffusé sur les réseaux sociaux que le groupe État islamique a annoncé avoir pris le contrôle d'une centrale électrique à l'ouest de Sirte, tout en ajoutant qu'ils ont chassé tous les ennemis de la ville. Une source militaire a confirmé à l'agence Reuters que les forces loyales au gouvernement autoproclamé qui contrôle la capitale Tripoli se sont effectivement retirées du site de la centrale après l'attaque lancée par le groupe État islamique mardi matin. L'organisation sunnite fondamentaliste a profité du chaos qui s'est instauré en Libye avec la présence de deux gouvernements rivaux pour s'implanter dans plusieurs villes dont Sirte, ville natale de Muammar Kadhafi. Dans le même temps, des délégations des deux gouvernements libyens sont au Maroc pour un nouveau round de négociations sous l'égide de l'ONU. Les Nations Unies tentent d'arriver à la création d'un gouvernement d'union nationale afin de sortir le pays du chaos. Les délégations sont sous la pression de la communauté internationale, inquiète notamment de l'implantation et de l'expansion du groupe État islamique en Libye.
L'Égypte, dans le collimateur de Human Rights Watch, l'ONG américaine dénonce les violations des droits de l'homme commises durant la première année au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi. En face, le régime égyptien accuse Human Rights Watch de soutenir le terrorisme et de répandre des mensonges. Retour sur la bousculade qui avait fait 74 morts dans un stade de Port Saïd en Égypte en février 2012. Un tribunal égyptien a confirmé aujourd'hui les peines de mort infligées à 11 supporters pour les émeutes déclenchées à l'issue d'un match de football. Quatre personnes ont trouvé la mort dans un incendie près de Kiev, la capitale ukrainienne. En début de soirée, les sapeurs-pompiers avaient partiellement maîtrisé les flammes qui ont embrasé un dépôt pétrolier. Les autorités ont ordonné l'évacuation de la zone envahie par une épaisse fumée noire. L'AFP fait remarquer que les enquêteurs semblent privilégier l'hypothèse d'une négligence, rien n'accréditant, selon la présidence, celle d'un attentat terroriste. La Grèce, surendettée, a offert un nouveau plan de réforme économique à ses créanciers internationaux ce mardi. Les détails des nouvelles idées d'Athènes envoyées à ses prêteurs n'ont pas été divulgués, mais certains responsables ont dit avoir mis l'accent sur les objectifs budgétaires révisés pour le gouvernement aux abois et de nouvelles façons de générer des revenus. Le nouveau gouvernement de gauche radicale de la Grèce est engagé dans un bras de fer avec ses créanciers sur la mise en œuvre des réformes d'austérité en cours prises par les gouvernements grecs antérieurs. Et au moins 73 employés ont été recrutés dans les aéroports américains malgré des liens avec le terrorisme et n'ont pas été détectés par l'autorité américaine de sécurité dans les transports, selon un nouveau rapport rendu public aujourd'hui. Pour les nouvelles du monde, chez Romain Orsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.